Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Signé Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. 629 mots, 25 versets. C'est criant, terrifiant d'actualité. Écrit probablement vers l'an 60, entre l'an 60 et l'an 80. Adressé à qui ? Pas un seul nom d'église. Adressé à tous, à nous tous. En 60 et aujourd'hui, en 2019. Cette lettre de Jude, l'une des plus courtes épîtres du Nouveau Testament, doit nous interpeller. Et elle nous interpelle. Parce que c'est ce que nous vivons. C'est ce qui se passe. On a été prévenus. Jude déjà disait que nous étions prévenus. Mais nous le sommes encore plus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la parole. Et nous devons nous méfier de tout cela. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Il ne se présente pas comme moi. Il est serviteur de Jésus-Christ. Et pourtant, il est frère de Jacques, et donc frère de Jésus. Mais on voit là toute l'humilité de Jude, qui ne veut rien pour lui, mais qui veut que toute la gloire soit apportée à Jésus, celui qui a donné sa vie, à notre Seigneur. Et il veut faire comme ça, serviteur de Jésus-Christ. D'autant plus que pendant toute la vie de notre Seigneur sur terre, Jude a rejeté la messianité de Christ. Il ne l'a reconnu qu'à la résurrection. Mais il a été transformé lorsqu'il a compris que son frère était le Messie que tout le monde attendait. Et maintenant, il est devenu son serviteur. Et il fait référence à Jacques, son frère, mais qui à l'époque était parfaitement reconnu, incontesté parmi la population. Et donc, en se référant à lui, il veut aussi montrer que ce qu'il va dire n'est pas rien, n'est pas simplement un texte comme ça qu'il a pensé tout seul. Mais il veut servir Jésus-Christ et il veut se servir de l'exemple de son frère, de Jacques et des autres apôtres. Et cette lettre, elle s'adresse à qui ? Eh bien, elle s'adresse à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et qui sont ces personnes appelées, aimées, gardées ? Eh bien, c'est tous les disciples, c'est tous, c'est nous aujourd'hui qui avons été appelés et qui sommes gardés, aimés en Dieu le Père. Et par conséquent, cette lettre, elle est pour nous. Malgré son ancienneté, elle est pour nous aujourd'hui. Bien-aimé, Jude aime ceux à qui il écrit, parce qu'il veut qu'ils comprennent, il veut qu'ils soient eux aussi conscients de tout ce qu'il va décrire après. Cette épître est parfois intitulée l'épître des apostats. Et Jude va décrire l'apostasie qui menace l'Église, tous ceux qui rejettent, et on va voir comment il les décrit. Que la miséricorde, la paix et la charité ou l'amour vous soient multipliés. Il veut que chacun puisse vraiment être dans la plénitude de l'amour manifesté au travers de la mort de Jésus-Christ, manifesté par Dieu le Père. Et que cet amour, cette miséricorde, parce qu'on ne méritait rien, que cette paix nous soit multipliée. Il nous est dit plusieurs fois dans la parole que Dieu est riche en miséricorde, dans l'Épître aux Éphésiens par exemple. la paix. Que la paix soit multipliée, malgré les circonstances difficiles. Et à l'époque, les chrétiens étaient martyrisés, pourchassés, mis en prison, tués. Nous, merci Seigneur, gloire à Dieu, nous pouvons vivre notre foi tranquillement, mais le danger menace. Parce que les gens ne comprennent pas, les gens veulent rejeter. Si on a le temps, on pourra vous lire un peu ce que nous avons reçu par l'intermédiaire de Buchneff, des sénateurs qui sont des figures d'autorité et qui se permettent d'écrire des choses, mais qui sont d'une fausseté incompréhensible et qui refusent la discussion ensuite lorsque on leur propose de se rencontrer pour expliquer qui sont les évangélistes, comme ils disent, avec toujours cette erreur entre l'évangélique et l'évangéliste. Mais aujourd'hui encore, les menaces existent. Mais Dieu veut nous garder dans la paix et dans son amour. Et cet amour que Jude voudrait voir multiplié, eh bien, c'est le contraire de ce que démontre ce dont on va parler, ces fameux impies. Jude avait prévu de parler du salut, sujet merveilleux qu'on a vu au cours de toute la louange, ce salut qui nous a été apporté par Jésus, mais l'urgence de la situation lui a fait changer de sujet. Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. C'est bien, c'est un merveilleux sujet, si j'ose dire, mais je me suis senti obligé de le faire. De faire quoi ? D'écrire cette lettre. Afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le salut est indiscutable, mais il y a autre chose qui paraît urgent, fondamental à Jude. C'est de nous exhorter à combattre. Exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, à nous, une fois pour toutes. La foi nous a été donnée. Et elle nous a été donnée une fois pour toutes. On n'y revient pas. Et donc à chacun vient la responsabilité de combattre. Avec quoi combattre ? Eh bien, cela nous est dit plusieurs fois dans les autres épîtres. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il ne s'agit pas de prendre l'épée, la mitraillette ou autre. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous sommes dans les bons jours, mais lorsque les mauvais jours arriveront, eh bien, nous devons prendre les armes de Dieu, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez aux avant-bras la vérité, pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons les armes, à nous de les utiliser, mais à bon escient et de la bonne façon. Et encore une fois, Jude, lorsqu'il dit « Je me suis senti obligé d'écrire cela », eh bien, à qui a-t-il écrit ? À nous, appelés, aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ. Cette lettre est adressée à tous les saints, à tous les disciples. Et pourquoi cette urgence? Pourquoi Jude s'est-il senti l'obligation d'écrire? Eh bien, il s'est glissé parmi vous, certains hommes, sans précision, indistinguables des autres, lorsqu'on les voit physiquement, hommes au sens humain du terme, car je crois, même sûr, que cela aussi peut concerner des femmes. Mais ils se sont glissés, ils se sont immiscés, ils se sont infiltrés. Voilà quelques autres mots qui servent à traduire le texte. Et donc, comme un serpent, ils s'infiltrent. On les voit, mais on ne fait pas attention. Certains hommes se sont glissés parmi vous. Certains hommes, ce sont des impies, est-il dit. Et l'impiété, c'est le fait de rejeter, de renier, de ne pas croire ce que Jésus a fait, ou de faire semblant, ou de dire « je crois » et de ne pas le penser, de ne pas le vivre. Eh bien, ces impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils font. Et, décidément, qu'est-ce qui est fait pour eux? Leur condamnation est écrite depuis longtemps. Nous, on ne le voit pas, mais Dieu les voit. Mais Dieu veut nous enseigner à les reconnaître, pour nous en méfier, pour ne pas succomber à leurs belles paroles. Dans Pierre, il nous dit, c'est par la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Voilà ce que sont des impies. Temps libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Parce que font ces impies? Eh bien, ils prennent à l'envers ce qui nous est dit dans Romains. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ben oui, c'est ce qu'ils font. Ils disent, puisque la grâce abonde, ben allons-y, péchons, continuons à pécher. C'est l'inverse qui nous est enseigné. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous avez été appelés à la liberté. Nous sommes libres en Christ. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres, alors que les autres, les impies, sont des destructeurs. Et c'est pour ça que leur condamnation est écrite depuis longtemps. Parce qu'ils sont connus, pas de nous, mais de notre Père. Leur condamnation, elle est sûre, elle est certaine, et ça nous est dit. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. Mais si on renie cela, et si on fait l'inverse, eh bien, il n'y a plus de salut, entre guillemets. L'apostasie, c'est renier tout ce que Christ nous a donné. Il ne reste plus le sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. Mais quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Ce n'est pas nous qui pouvons venger, mais le Seigneur jugera son peuple. Si c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Si c'est le péché qui triomphe en nous, nous en sommes esclaves. Si c'est l'amour de Jésus, nous sommes esclaves, mais tellement heureux d'être esclaves de Jésus-Christ. Après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de s'être détourné après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et ensuite, après avoir mis en garde, eh bien Jude continue. Là, il a donné quelques détails, quelques descriptions de ces impies. Mais je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Donc, il parle à des gens qui connaissent la parole. À l'époque, la parole, l'évangile avait été annoncé. Jésus était venu, mais les textes n'étaient pas inscrits, n'étaient pas écrits. La tradition orale permettait aux saints, aux disciples, de connaître cela. Et nous, nous avons maintenant la parole écrite. Donc, à plus forte raison, nous savons ce qui a été annoncé. Et vous savez fort bien ce qui a été annoncé. Avec trois parties distinctes, le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et leur tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Dieu est un Dieu juste. Il a sauvé son peuple, mais les incrédules ont le châtiment qu'ils méritaient. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Et on va voir tout à l'heure que Jude fait référence à celui qui a été initialement le premier des anges, mais parfaitement déchu. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines, exemple qui à l'époque parlait certainement très fort à l'esprit des gens, parce que c'était leur histoire récente, enfin récente, beaucoup plus récente que maintenant, mais c'était tout ce qui avait été raconté par les anciens, et qui était donc pour eux l'histoire comme pour nous l'histoire d'il y a un siècle ou d'il y a 50 ans. C'était quelque chose de marquant. Et donc, Jude veut insister là-dessus pour bien leur montrer l'importance, la vérité de ce qu'il dit. Et ensuite, il avertit de façon un peu différente encore. Ce texte, cet exemple, est tiré d'un livre apocryphe. Il n'est pas dans notre parole, hein. Dans notre Bible, on ne voit pas cette histoire de l'archange Michel. Mais ce que écrit Jude et qui doit nous interpeller, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, un archange, c'est quelqu'un. C'est pas rien, c'est pas nous, c'est pas un simple humain. N'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et là, je crois que c'est un avertissement pour nous aussi. Méfions-nous des combats que nous oserions parfois ou que nous voudrions parfois mener contre des puissances qui nous dépassent. Le combat spirituel, ça existe, je le crois vraiment. Mais méfions-nous de qui nous affrontons et ne le faisons jamais seul. Et ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous d'essayer de détruire. Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut réprimer. Par contre, les autres, ils parlent d'une manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent. Et parfois, effectivement, on peut entendre des hommes, des femmes qui s'expriment violemment, pensant vaincre, pensant démolir. Attention à tout cela. Jude le disait à l'époque, et je crois qu'il nous le dit encore aujourd'hui. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'eux aussi, ils ont la connaissance. Ils ont appris. Ils ont su ce que Dieu et Jésus avaient fait pour eux. Mais ils s'en sont détournés. Ils savent naturellement, mais ils se comportent comme des brutes. Et on verra un peu plus loin qu'ils sont décrits comme des hommes sans l'esprit, sans esprit. Trois exemples ensuite que nous cite Jude. Là encore, des exemples de l'Ancien Testament qui sont frappants pour ceux à qui il écrivait à l'époque, mais qui doivent l'être pour nous aussi. Caïn, Balaam, Corée. Caïn, dont on sait ce qu'il a fait, il s'est mis en colère au point de tuer son frère. Balaam, il a cherché à détourner les chrétiens, le peuple à l'époque, pour leur faire croire des choses. Il voulait faire tomber les Israélites dans l'idolâtrie. Et Corée, les disciples de Corée, 250 disciples, 250 prêtres qui se sont ligués avec Corée pour transmettre des choses fausses, pour se rebeller. Eh bien, on sait bien ce qui est arrivé à ces trois. Caïn, Balaam, Corée, ils ont été punis par le Seigneur. Et donc, méditons cela aussi, parce que la punition existe. Ce sont des écueils dans vos agapes, ces impies. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte-Seine. Je ne sais pas ce que Raymond a prévu de dire, mais dans l'Épître aux Corinthiens, je crois, il est bien dit de s'examiner et de ne pas prendre la Seine comme un jugement contre nous. Et lorsque ces impies étaient dans l'Église, au cours des agapes à l'époque, on partageait le pain et le vin. Eh bien, c'était pour eux-mêmes, mais aussi pour l'assemblée, des écueils, des occasions de chute, car ils prenaient la scène en connaissance de cause, en sachant qu'ils n'étaient pas aimés de Dieu, qu'ils ne faisaient pas le bien. Ce sont des nuées sans eau, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ces quatre exemples, je trouve, nous montrent parfaitement le vide de tout ce que peuvent dire ces gens. Ils promettent des grandes choses. Quand on voit la nuée arriver, on se dit « chic, il va pleuvoir, on en avait besoin ». Quand on voit des arbres, à l'automne, on attend à avoir des grenades, à avoir des coins. Il n'y en a pas. Et non seulement ils sont stériles, mais en plus ils sont déracinés, parce qu'ils sont morts, parce qu'ils ne valent rien. Les vagues furieuses de la mer, la vague furieuse quand on se promène sur la côte, ça fait des dégâts. Et bien là, c'est des vagues qui s'arrêtent instantanément au premier obstacle, et en fait elles ne font que rejeter les impuretés. Les astres errants, les étoiles filantes, on ne sait pas quand est-ce qu'elles arrivent, et hop, elles disparaissent aussitôt. Et c'est ça les impies, des nuées qui n'apportent pas d'eau, des vagues qui ne font rien, simplement disperser de l'écume, des astres qui disparaissent. On a l'impression tout d'un coup qu'un homme, une femme s'élève et les gens le regardent avec l'impression de puissance et ils disparaissent aussitôt. Et tout cela, l'obscurité des ténèbres leur est réservé pour l'éternité. Encore une fois, ce texte n'existe pas, dans nos Bibles. C'est un texte apocryphe. Mais Enoch, qui est cité, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est l'homme qui a marché avec Dieu. Et c'est l'un des trois qui n'a pas vu la mort. Parce que Dieu l'aimait tellement, le considérait tellement, qu'il l'a enlevé. Et Enoch, là, on découvre qu'il a été prophète. Enfin, Jude dit qu'il a prophétisé. Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Quatre lignes, trois fois le mot impie. Encore une fois, pour montrer que Dieu les connaît. Ils ne peuvent pas échapper au jugement de Dieu. Parce qu'il sait qui ils sont, il sait ce qu'ils font, il sait ce qu'ils disent. Et qui sont ces gens-là? Eh bien, des gens qui murmurent, qui disent des choses dans le dos. Le peuple a murmuré contre Dieu, contre Moïse. Il a été puni. Eh bien, ces gens qui murmurent, qui disent des mauvaises choses de Dieu, mais aussi des frères et sœurs, ceux-là sont connus. Ils se plaignent de leur sort, jamais contents. Il n'y a pas que les Français qui sont jamais contents. Qui marchent selon leur convoitise. Quel est leur but? Simplement de se faire plaisir, pas d'honorer le Seigneur, mais de retirer à eux tous les profits, toute la couverture. À la bouche des paroles hautaines, ils disent des choses méprisantes. Jude dit que l'amour vous soit multiplié. Là, c'est tout l'inverse. Qui admire les personnes par motif d'intérêt. Ils vont aller voir les riches, les puissants, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent en tirer quelques bénéfices pour eux, pour eux-mêmes. Si encore, à la limite, c'était aller voir les puissants et les riches pour retirer quelque chose et le redistribuer, on pourrait, à condition que les moyens soient honnêtes et justes, mais là, c'est pour eux-mêmes et uniquement pour eux qu'ils voient cela. Mais vous, bien-aimés, et là, Jude s'adresse à nouveau à nous, à eux à l'époque et à nous aujourd'hui. Vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jude a écrit cette lettre, les apôtres avaient parlé. Les actes des apôtres étaient connus. Jésus était mort, ressuscité, et l'évangile, la bonne parole, était annoncée. Souvenez-vous d'avance des choses annoncées par les apôtres. Et qu'est-ce qu'ils disaient, les apôtres? Bien sûr, ils disaient la vérité. Ils disaient les belles choses accomplies par Jésus. Sa résurrection, le salut offert. Mais il disait aussi qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, ça veut dire hommes parfaitement charnels, qui n'ont pas l'esprit. Ils ont entendu les choses, mais ils n'ont pas reçu l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Prier par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Se maintenir dans l'amour de Dieu et s'attendre à la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Les trois personnes de la Trinité sont réunies dans cette seule phrase. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Et tout est complet. On ne peut pas dire tout est accompli, ce n'est pas une bonne phrase, mais la vérité est là. Dieu a donné son Fils, et lorsque son Fils est parti le rejoindre, il nous a laissé l'Esprit, qui est aujourd'hui, pour nous, un instrument. Et en sachant cela, ce que Jude dit, Voilà ce qu'il faut faire. Les mots peuvent paraître durs, mais il me semble que là-dedans, un élément domine, avec un grand A, c'est l'amour. Reprenez les uns, ceux qui contestent, pour leur dire « Ce n'est pas la vérité, Jésus t'aime, moi je t'aime aussi, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais. » Sauvez-en d'autres, ceux que l'on voit qui se perdent, eh bien, avec la force que nous donne le Seigneur, cherchons à les arracher au feu. Et pour d'autres encore, il y a une pitié mêlée de crainte. Crainte de quoi ? Crainte du jugement. Crainte de notre rencontre avec le Seigneur. Mais ayons pitié de ceux dont nous pensons qu'ils se perdent. Et cette finale, en termes savants, on dit la doxologie. Il a fallu que je recherche dans le dictionnaire pour savoir vraiment ce que ça voulait dire. Mais à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. C'est pour ça que j'avais dit à Claude, il faut rajouter à toi la gloire. Mais merci parce que le Seigneur t'a inspiré et tu l'as rajouté dans tes chants au moment où c'était bien. J'aurais voulu le chanter là, mais c'est pas grave. C'était parfaitement dans la droite ligne de ce que le Seigneur t'avait inspiré pour cette louange. Donc cette épître de Jude, elle a été écrite, je vous ai dit, il y a longtemps, mais elle est parfaitement d'actualité. Et c'est pour ça que je me suis dit que Jude, aujourd'hui, nous écrivait à nous, individuellement. Et je vous ai fait une lettre.